Bienvenue dans votre rendez-vous info à l'antenne de CILS FM 107,9. Cette édition du débrief pour les 11 et 12 juillet va commencer dans quelques instants. Merci de syntoniser votre fréquence communautaire francophone locale. C'est Alexis Gagnon au micro. 14 000 personnes évacuées dans l'intérieur de la province de Colombie-Britannique en raison des feux de forêt. Nous allons bien sûr en parler. Il y a eu des évacuations et des communautés demeurent sur un pied d'alerte. Des avis d'évacuation qui vont probablement être donnés. Il en sera question évidemment dans cette émission. Nous allons d'abord passer par la revue des actualités internationales. Je signale par ailleurs que j'aurai le plaisir plus tard dans l'émission, vers la fin de cette édition, de m'entretenir avec l'avocate Jeanne Robert à propos des assouplissements qui ont été apportés aux conditions qu'impose le pays aux étrangers ayant le statut de résident permanent. Bonne émission à tous. Mon nom est Alexis Gagnon, je vous accompagne dans la prochaine heure avec les infos du jour, infos du monde, infos du Canada et infos de Colombie-Britannique. On va débuter tout de suite cette édition des 11 et 12 juillet avec la revue de presse internationale. Corée du Nord, un missile pourrait atteindre la Californie dès 2019, c'est ce que nous rapporte le journal West France à l'adresse westfrance.fr. Après le premier tir réussi d'un missile intercontinental par la Corée du Nord le 4 juillet dernier, un expert américain s'inquiète du fait que le régime de Pyongyang, la capitale de Corée du Nord, serait capable de mettre au point un engin avec un plus grand rayon d'action. Si le régime de Kim Jong-un y consacre les ressources suffisantes, un missile nord-coréen pourrait en effet toucher la Californie d'ici 2 ans, estiment les experts. La Californie pourrait être à la merci de la Corée du Nord d'ici 2 ans. L'idée inquiète en tout cas nombre d'experts américains. C'est ce que rapporte West France dans cet article intitulé « Corée du Nord, un missile pourrait atteindre la Californie dès 2019 ». On va maintenant consulter le fil de l'agence France Presse. Retour en Australie du cardinal Pell, inculpé d'agression sexuelle. Le cardinal George Pell, numéro 3 du Vatican à Rome, est arrivé lundi en Australie où il doit être entendu dans 2 semaines pour des soupçons d'agression sexuelle. Le pape François a accordé un congé au responsable des finances du Saint-Siège au Vatican pour lui permettre d'assurer sa défense. Le prélat de 76 ans a été inculpé fin juin pour des délits d'agression sexuelle ancienne, sans aucune précision sur les faits supposés ni l'âge des victimes présumées. Il est convoqué le 26 juillet devant le tribunal de Melbourne pour une audience préliminaire. Retour dans les colonnes de West France. Pour avorter, les femmes de l'Arkansas devront demander l'accord du père. Ça nous vient bien sûr des États-Unis. L'Arkansas est cet état du sud des États-Unis, particulièrement conservateur de tradition. Une nouvelle loi devant entrer en vigueur ce mois de juillet obligera les femmes à demander l'accord du père, même en cas de viol. Les associations pro-choix sont furieuses, indique West France dans cet article. La législation anti-avortement se multiplie aux États-Unis et pour preuve, en vertu d'un nouveau projet de loi qui devrait entrer en vigueur fin juillet, les femmes ne pourront plus avorter sans l'accord du père de l'enfant en Arkansas. Pour les jeunes filles âgées de moins de 18 ans, la décision reviendra aux parents ou aux tuteurs légaux. Pire, même les femmes enceintes victimes d'un viol ne pourront plus avorter sans l'accord du père, donc du violeur, autrement dit. Un représentant de l'association pro-choix a affirmé au Huffington Post que cette décision n'avait pas d'autre objectif que de rendre plus difficile l'accès à l'avortement par tous les moyens possibles, en plaçant plus de barrières entre les femmes et leurs médecins. Des organisations de défense des droits civiques ont porté plainte contre cette loi pour tenter de geler le processus législatif. Autre intrusion du gouvernement dans la santé publique, cette fois du côté européen, en France plus précisément, où le nombre de vaccins auxquels sont soumis les nouveau-nés a bondi. C'est dans le portail Reporter, à l'adresse reporter.net. Obligation vaccinale, la guerre est déclarée. C'est une tribune signée par Michel Rivasi. La décision du gouvernement de rendre obligatoire 11 vaccins est dangereuse et inacceptable, écrit l'auteur de cette tribune. Il faut protéger la santé des citoyens, pas les chiffres d'affaires des laboratoires. Et l'auteur, Michel Rivasi, précise-t-on, est eurodéputée, donc elle siège au Parlement européen. et c'est une biologiste agrégée. Elle est la co-auteure d'un ouvrage intitulé « Le racket des laboratoires pharmaceutiques et comment en sortir ». L'annonce soudaine par le gouvernement de sa volonté d'étendre l'obligation vaccinale de 3 à 11 vaccins et de légiférer au plus vite pour mettre en œuvre cette obligation dès janvier 2018 témoigne d'une politique du fait accompli, écrit-elle dans cette tribune que fait paraître le portail Reporter à l'adresse reporter.net. Ce passage en force, autoritaire et sans équivalent en Europe, remet en cause la liberté de choix thérapeutique consacrée par la loi Kouchner et la déontologie de l'Ordre des médecins. Il est contre-productif et témoigne d'une volonté dogmatique, aveugle et sourde à tout dialogue, qui renforce encore la suspicion de la population sur les véritables bénéficiaires de cette volonté vaccinale. Au contraire de nos voisins qui ont fait de la liberté thérapeutique une véritable valeur sanitaire, le premier ministre Édouard Philippe, le premier ministre français, et sa ministre de la Santé Agnès Buzyn s'illustrent par leur volonté de vouloir étendre l'obligation vaccinale de 3 à 11 vaccins. La question de la fiabilité de ces vaccins est tout d'abord posée, écrit l'auteur, qui est, rappelons-le, biologiste agrégé. La succession des scandales sanitaires et des complications observées après vaccination montre une insécurité vaccinale. En multipliant les injections, et ce dès le plus jeune âge, nous rentrons en zone inconnue, écrit-elle. Par ailleurs, la défiance de la population est considérable depuis les scandales sanitaires liés à la campagne vaccinale contre l'hépatite B, initiée en 1994, au prix de plus d'un millier de cas de sclérose en plaques, de maladie de Guillain-Barré, de sclérose latérale amyotropique et d'autres affections auto-immunes telles que les myofasciites à macrophages. Elle cite aussi d'autres cas de vaccination ayant causé des problèmes dans la population. Sur la sellette également, poursuit-elle dans cette tribune, le vaccin Gardasil, présenté comme prévenant le cancer du col de l'utérus alors qu'il ne protège que contre une fraction des papillomavirus pouvant entraîner un cancer. À ce jour, ce vaccin n'a fait la preuve ni de son efficacité ni de son innocuité, écrit-elle. D'autres motifs d'inquiétude pèsent sur les vaccins en matière d'adjuvants, ces additifs toxiques ajoutés pour renforcer la réponse immunitaire, à l'instar des sels d'aluminium vaccinaux, dont les conséquences sur la santé sont maintenant avérées, comme l'indique la solide jurisprudence établie par le Conseil d'État et la Cour de justice de l'Union européenne. Alors voilà des critiques légitimes soulevées par l'auteur de cette tribune, Michèle Rivasi. Elle est députée européenne, elle est aussi biologiste agrégée et auteur d'un ouvrage sur les vaccins. Ça s'intitule « Obligation vaccinale, la guerre est déclarée » et vous trouverez ça dans le portail Reporter à l'adresse reporter.net. La Chine bannit l'utilisation des VPN, ces réseaux privés virtuels. Vous trouverez ça dans le portail RFI. La Chine ordonne à ses entreprises de communication de fermer tout accès aux VPN d'ici le 1er février 2018. Ces réseaux privés permettent aux Chinois et aux étrangers installés sur place de contourner la censure et d'accéder aux sites Internet du monde entier. Une annonce qui indique que Pékin est fermement décidé à mieux contrôler l'information dans ce pays. C'est grâce aux VPN que les internautes en Chine accèdent aux réseaux sociaux, à la presse internationale ou encore aux moteurs de recherche, peut-on lire dans cet article de RFI. Les internautes passent ainsi entre les mailles du filet de la censure chinoise, des mailles qui promettent donc de se resserrer encore un peu plus d'ici février 2018. Toujours en Asie, cette fois au Japon et toujours dans le secteur des technologies, début du procès du patron français de la plateforme de bitcoins Mt. Gox. Alors, si vous connaissez le Bitcoin, vous savez que c'est une crypto-monnaie, une monnaie virtuelle. Mt. Gox, c'est un scandale qui remonte à 2014 au Japon. Peut-on lire dans cet article de RFI, s'ouvre ce 11 juillet le procès de l'ex-baron aux trous proclamé des bitcoins, un Français, Marc Karpeles. Sa plateforme d'échange de monnaie virtuelle avait fait faillite au début de 2014 après une perte d'environ 355 millions d'euros. Il comparait notamment pour détournement de fonds au Japon, répétons-le. Alors c'est un article qui est signé par le journaliste Frédéric Charles et il revient sur cette affaire de bitcoin dilapidée. Si vous voulez, disparu suite à la faillite de la plateforme d'échange de monnaie virtuelle Mt. Gox, qui était pilotée par un Français appelé Marc Karpeles. On reste encore un petit peu dans le secteur des technologies. Elon Musk, le milliardaire qui veut changer le monde. Alors si vous n'avez pas entendu parler d'Elon Musk, c'est celui qui est derrière Tesla, le fabricant de voitures électriques. Mais il a aussi plusieurs autres réalisations à son actif. Ce milliardaire visionnaire, vous trouverez son portrait dans le portail de West France. Amateur de paris fous, le milliardaire américain Elon Musk veut révolutionner le monde, peut-on lire dans cet article touche-à-tout de génie. Il rêve de coloniser Mars. En attendant de partir à la conquête de l'espace, il a développé le paiement en ligne avec PayPal. C'est également lui qui dirige la marque de voitures électriques Tesla. Portrait d'un capitaine d'industrie qui détonne. C'est l'occasion de se familiariser avec ce milliardaire excentrique et visionnaire Elon Musk, que certains comparent à Thomas Edison, version 21e siècle. Vous trouverez ça dans le portail West France à l'adresse westfrance.fr. Plusieurs feuillets donc sur ce milliardaire qui a des liens avec le Canada, apprend-on d'ailleurs dans cet article. Retour dans le portail de RFI à l'adresse rfi.fr pour vous mentionner que Paris est assuré d'organiser les Jeux olympiques de 2024 ou 2028. Je vous lis quelques lignes de cette dépêche. Le Comité international olympique, le CIO, a décidé d'attribuer en même temps les Jeux d'été de 2024 et de 2028 et l'annonce aura lieu le 13 septembre 2017 à Lima, au Pérou. Les membres du CIO ont voté cette réforme qui permettra à Paris et à Los Angeles, les deux villes candidate d'organiser à tour de rôle les Jeux olympiques. Sauf revirement, Paris organisera les Jeux olympiques d'été pour la troisième fois de son histoire en 2024 ou encore en 2028. La capitale française, hôte de la plus grande manifestation sportive mondiale en 1900 ainsi qu'en 1924, a désormais la garantie d'être désignée pour la 33e ou la 34e édition et l'annonce se fera, rappelle l'article, le 13 septembre à Lima, au Pérou. Et voilà, donc l'autre ville, évidemment, c'est Los Angeles qui saura si l'organisation des Jeux se fera là-bas en 2024 ou 2028. On va se déplacer rapidement du côté de la presse anglophone alternative sur le portail commondreams.org, un sujet qui rejoint les préoccupations du Canada. C'est un sujet qui touche la défense nationale et dont on a déjà parlé dans le débrief. C'est un article de Common Dreams donc qui porte sur le F-35, ce chasseur, cet avion chasseur qui a coûté une fortune en centaines de millions de dollars aux pays qui développent cet avion qui n'est toujours pas en fonction. Et l'on apprend sur commondreams.org que les États-Unis vont à nouveau verser 406 milliards de dollars américains pour le développement de cet avion chasseur, le F-35, un avion qui a connu de multiples problèmes dans son développement. On a appris il y a quelques années qu'il ne pouvait pas voler sous la pluie, par exemple. Il ne pouvait pas voler en situation nocturne. Bref, c'est un avion qui a concentré le gaspillage des différents pays qui le co-développent en partenariat, au premier chef les États-Unis, mais aussi le Canada sous Stephen Harper, qui a dépensé énormément d'argent dans ce projet bidon. Et le titre de cet article de Common Dreams, donc, c'est nous apprend que les États-Unis continuent à dépenser des fortunes pour cet avion qui n'est toujours pas en fonction, rappelons-le, 406 milliards de dollars pour le F-35. Et le titre donne la couleur. Un pays qui est trop chiche pour se doter d'un système de santé universel a quand même assez d'argent pour verser 406 milliards de dollars supplémentaires dans le projet du F-35. Alors voilà, c'est un article qui, vous le devinez, est critique à l'endroit des décisions du gouvernement dans ce dossier. Et c'est là-dessus qu'on va refermer la revue de presse internationale pour les 11 et 12 juillet. Merci de syntoniser votre fréquence communautaire francophone locale. On va poursuivre cette édition du débrief dans quelques instants avec la revue de presse nationale. À tout de suite. C'est le moment de passer aux nouvelles canadiennes. Voici maintenant votre revue de presse nationale dans cette édition du débrief pour les 11 et 12 juillet. On va se rendre immédiatement dans le portail de Radio-Canada, un article sur le financement du Parti libéral du Canada, 10 000 $ par an pour une promesse d'accès exceptionnel au gouvernement Trudeau. C'est la manchette que fait paraître Radio-Canada aujourd'hui, 11 juillet. Combien vaut l'accès au chef de cabinet d'un ministre, demande cet article. Radio-Canada a appris qu'un regroupement de grandes compagnies en innovation promet à ses membres une rencontre par mois avec le chef de cabinet de la ministre Catherine McKenna, moyennant des frais de cotisation annuels de 10 000 $. Cet article est signé par Fanny Olivier dans le portail de Radio-Canada. Elle écrit « Le Council of Canadian Innovators, le CCI, un groupe réunissant les dirigeants de 70 grandes entreprises canadiennes en technologie, propose cet accès au gouvernement de Justin Trudeau dans une brochure expliquant les avantages dont jouissent ses membres. Les PDG des entreprises en technologie propre, CleanTech, qui font partie du CCI, participent à des rencontres mensuelles avec le chef de cabinet de la ministre de l'Environnement et du Changement climatique, peut-on lire dans cette brochure rédigée en anglais, obtenue par Radio-Canada. Évidemment, cet accès contre de l'argent à un chef de cabinet suscite des critiques et Radio-Canada a notamment interrogé l'éthicien René Villemur dans cet article. Selon lui, l'offre du CCI a de quoi faire sourciller, d'autant que Justin Trudeau a promis lors de la campagne électorale de 2015 un gouvernement ouvert et transparent. C'est injuste pour tous ceux qui ne paieront pas, a noté René Villemur, qui est, rappelons-le, éthicien. Quelqu'un qui choisit de ne pas être membre du CCI se trouve d'office désavantagé parce que lui, on ne peut pas lui promettre une rencontre mensuelle avec le chef de cabinet de la ministre de l'Environnement. Donc, assurément, cela crée deux classes de citoyens, dit-il, et la classe privilégiée, celle qui consent à payer le 10 000 $, a un avantage de plus. Et cela, évidemment, pose la question de l'influence de l'argent sur les décisions de nos élus, dans le cas présent du gouvernement de Justin Trudeau à Ottawa. Donc, vous trouverez cet article sur le Council of Canadian Innovators, le CCI, dans le portail de Radio-Canada. Je rappelle le titre, 10 000 $ par an pour une promesse d'accès exceptionnelle au gouvernement Trudeau. On va se déplacer maintenant du côté du journal Le Devoir à l'adresse ledevoir.com. Jagmeet Singh nuirait aux chances du NPD fédéral au Québec, selon certains observateurs. C'est un article que signe Hélène Buzetti, la correspondante parlementaire à Ottawa du journal Le Devoir. Hélène Buzetti écrit « L'inquiétude gagne les rangs québécois du NPD fédéral. Plusieurs militants s'affolent que leurs collègues du reste du Canada ne les écoutent pas lorsqu'ils les mettent en garde contre les périls électoraux d'élites. » Jagmeet Singh, chef du NPD. Jagmeet Singh, qui est un Sikh pratiquant, milite pour exempter ses co-religionnaires du port du casque à moto et s'est fait le porteur des objections de sa communauté lors de l'implantation d'un cours de sexualité dans les écoles ontariennes. Certains craignent qu'une telle foi active ne passe pas la rampe dans un Québec enclin à la laïcité. La journaliste poursuit, c'est le cas de Pierre-Dionne Labelle, l'ex-député de Rivière-du-Nord qui a été défait en 2015 quand on lui demande si un NPD dirigé par Jagmeet Singh, qui porte le kirpan et le turban, constituerait peut-être un frein pour le parti au Québec. Il répond, peut-être, dites-vous, c'est certain. Après la dernière campagne électorale que nous avons vécue et la place que les signes religieux ostentatoires ont prise, cela a divisé totalement la population. D'avoir un chef qui porterait des signes ostentatoires, nous ne sommes pas prêts. Il ajoute, est-ce que je serais à l'aise avec ça? Je ne le crois pas. Jagmeet Singh poursuit cet article d'Hélène Buzetti, est l'un des quatre candidats restant dans la course au leadership du NPD fédéral. Depuis le retrait de la course de Peter Julian, qu'appuyait une dizaine d'élus ou ex-élus du Québec, dont Pierre-Dionne Labelle, il est présumé être en tête de la course plus ou moins à égalité avec Charlie Angus. Voilà, donc les tenants de la laïcité, spécialement dans les rangs du NPD fédéral québécois, se posent des questions quant à la candidature de Jagmeet Singh à la succession de Thomas Mulcair au poste de chef de ce parti. Vous trouverez ça dans le journal Le Devoir. Petit fait divers pour clore la revue de presse nationale. USA, un avion d'Air Canada a failli causer une catastrophe à San Francisco. C'est dans le fil de la presse canadienne. Un avion d'Air Canada a failli causer une catastrophe tard vendredi soir dernier à l'aéroport international de San Francisco, en Californie. Plusieurs médias d'information rapportent qu'en se préparant à se poser, les pilotes de cet avion d'Air Canada, un Airbus A320, ont aligné l'appareil par inadvertance sur la mauvaise piste d'atterrissage. Là où se trouvaient quatre avions qui s'apprêtaient à décoller avec leurs passagers. La tour de contrôle de l'aéroport de San Francisco aurait alors ordonné aux pilotes d'Air Canada de remonter l'avion immédiatement. Peu après, l'appareil a procédé à une nouvelle approche pour finalement se poser sur la bonne piste sans encombre. C'est sur cette actualité que nous allons clore la revue de presse nationale. Nous allons ouvrir dans quelques instants la revue de presse provinciale, la revue des actualités de Colombie-Britannique, que nous concentrons uniquement aujourd'hui sur les feux de forêt. À tout de suite. Incendie de forêt en Colombie-Britannique, la situation empire. La nouvelle se trouve dans le fil de la presse canadienne. Plus de 200 incendies font présentement rage en Colombie-Britannique et environ 14 000 personnes ont dû quitter leur demeure jusqu'ici, alors qu'un millier de pompiers de la province combattent les flammes depuis plusieurs jours. Et le responsable de la gestion de crise, Bob Turner, estime que la situation empire de jour en jour. Les incendies ont rasé jusqu'ici environ 400 km² de territoire, indique cet article de la presse canadienne. Lundi soir, peut-on lire, l'ordre d'évacuation dans le district régional de Caribou a été élargi afin d'ajouter les régions d'Alexis Creek et de West Fraser à celles de Clinaclean, déjà évacuées. Par ailleurs, plus de 10 000 résidents de Williams Lake ont été prévenus tard lundi soir qu'ils doivent être sur un pied d'alerte d'évacuation, ce qui signifie qu'ils pourraient devoir quitter leur domicile à tout moment et sans préavis. Les autorités municipales ont expliqué que les vents et la foudre prévus mercredi pourraient pousser rapidement le brasier vers Williams Lake et menacer les résidences de cette ville. Le district régional de Thompson, Nicolas, a aussi étendu son alerte d'évacuation au secteur de Cache Creek à cause d'un incendie de forêt qui progresse rapidement. La nouvelle alerte d'évacuation touche 57 résidences, peut-on lire dans cet article de la presse canadienne. Kevin Skrepnek, responsable des communications au service provincial de lutte contre les incendies de forêt en Colombie-Britannique, a expliqué à la presse canadienne que les rafales et le temps chaud et sec devrait perdurer encore plusieurs jours. Les 1000 sapeurs de la province reçoivent petit à petit l'aide de 300 collègues de l'Alberta, de la Saskatchewan, de l'Ontario et du Nouveau-Brunswick. Donc voilà pour les dernières informations dans le fil de la presse canadienne. Incendie de forêt en Colombie-Britannique, la situation empire. Et dans la presse anglophone de la province, on a sur le portail du Times Colonist cette même information. Nous apprenons que 14 000 personnes ont dû fuir leur foyer. Je vous donne la manchette en anglais. 14,000 flee homes due to interior wildfires. Williams Lake on alert. Ça, c'est tiré du fil de la presse canadienne, mais vous trouverez de plus en plus d'infos dans le portail du Times Colonist, notre quotidien local ici à Victoria. Du côté du portail indépendant de Taï, un article qui prend un petit peu de recul, un peu de distance par rapport à ce phénomène des feux de forêt qui nous indique que le phénomène risque de se reproduire d'année en année de façon plus intense. C'est une tendance lourde qui va s'accentuer en Colombie-Britannique au cours des prochaines années. D'ailleurs, le titre l'indique de suite. BC's wildfire summers are here. Here to stay. Les feux de forêt d'été sont là pour rester. C'est un article que signe Crawford Killian dans le Taï. Il ne s'agit pas d'une exception, indique le chroniqueur dans cet article, mais bien d'une tendance lourde. Et il donne dans cet article les mesures que l'on doit prendre pour diminuer les risques d'incendies de forêt au cours des prochaines années. Une meilleure gestion des ressources, notamment. Dans le portail Check News, un autre portail indépendant situé sur l'île de Vancouver, un article qui note que tous ces incendies dans la province de Colombie-Britannique risquent de faire monter le prix des assurances. Wildfires, floods mean insurance rates likely to rise in BC. Ça, c'est le titre de cette manchette paraissant sur le portail Check News à l'adresse checknews.ca. Et le portail anglophone de Radio-Canada, bien sûr, ne fait pas exception. Une grande couverture accordée à ces incendies qui sévissent actuellement dans l'intérieur de la province. Un article qui nous avise que la situation va vraisemblablement s'empirer au cours des prochains jours, étant donné que la météo n'accordera vraisemblablement pas de répit. Vous trouverez ça donc dans le portail de CBC. Et là encore, comme dans la chronique qu'on vient de citer, la chronique du Taï, cet article de CBC indique que ces incendies appartiennent ou s'inscrivent dans une tendance effectivement qui s'accentue au fil des ans. Les incendies de forêt de grande échelle sont devenus la norme plutôt que l'exception, et différents experts sont interviewés dans cet article de CBC News à l'adresse cbc.ca. Pour avoir de plus amples infos sur la situation, si vous comptez prendre la route, si vous comptez quitter l'île et conduire dans ces régions, vous pouvez consulter le portail drivebc.ca où l'on trouve mise à jour des conditions routières et bien sûr des informations sur les incendies de forêt qui sévissent. Vous avez aussi le site du ministère des Transports de la Colombie-Britannique qui tient évidemment des infos détaillées et à jour sur les incendies qui font rage actuellement dans la province. Le ministère des Transports de la province se trouve à l'adresse tranbc.ca, tranbc.ca. Autrement, vous pouvez suivre sur Twitter le mot-clé Wildfires BC et vous aurez tous les développements les plus récents d'heure en heure sur cette situation qui est assez critique actuellement. Donc, on le rappelle, la province est en état d'urgence actuellement. On va suivre ça attentivement et je m'entretiendrai à ce sujet dans l'édition de demain, 12 juillet, avec ma collègue Marie-Hélène Bourret pour faire le tour de cette situation. Voilà pour les nouvelles provinciales. On va se rendre à l'interview du jour dans quelques instants. J'ai le plaisir d'accueillir en studio Jeanne Robert, avocate et juriste. Nous allons parler d'immigration aujourd'hui et plus particulièrement du statut de résident permanent. Une nouvelle loi passée au Parlement à Ottawa a assoupli certaines conditions qu'avait imposées le prédécesseur de Justin Trudeau, Stephen Harper, lors de son mandat. Donc, c'est plus aisé maintenant de cheminer vers la nationalité, la naturalisation, que ce l'était auparavant. Et Jeanne Robert va nous expliquer tout ça. C'est dans quelques instants à l'antenne de CILS FM 107,9. À tout de suite. Vous êtes toujours à l'antenne de CILS FM 107,9 dans la grande région de Victoria. L'émission Le Débrief se poursuit. Nous sommes en compagnie de Jeanne Robert. Bonjour Jeanne.
Bonjour Alexis.
Donc on parle aujourd'hui de droit. On parle de droit de l'immigration. Jeanne Robert est avocate et juriste, membre du barreau du Québec. Donc aujourd'hui, on parle d'un projet de loi qui a été adopté récemment à la Chambre des communes à Ottawa, le projet de loi C6. C'est bien ça?
Exactement, c'est ça. En fait, donc c'est un projet de loi qui a été qui a reçu récemment en fait la sanction royale donc le 19 juin 2017, donc ça fait un peu moins d'un mois, et qui entraîne des conséquences importantes en matière de citoyenneté, de demande de citoyenneté. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ce projet de loi, c'était une promesse électorale du Parti libéral, donc lors de la campagne de 2015.
D'accord.
Qui, en fait, fait suite à une modification qui avait été apportée par le gouvernement conservateur en 2014, qui était le projet de loi C-24, qui avait, en fait, durci les exigences d'acquisition de la citoyenneté canadienne pour les résidents permanents.
Donc est-ce que cette loi assouplit les conditions ou les resserre encore plus?
Alors en fait, cette loi, donc la nouvelle loi, le projet de loi C6 vient assouplir ce qui avait été fait par le gouvernement Harper, le gouvernement conservateur. Maintenant en fait, c'est un peu un retour de ce qui existait déjà auparavant. Donc il y a beaucoup de choses. Bon, je vais donner des exemples. Par exemple, le gouvernement Harper avait prolongé la durée de résidence pour demander la citoyenneté canadienne, donc au Canada, qui la faisait passer de trois ans à 4 ans.
À tous les étrangers.
À tous les résidents permanents. Donc c'est-à-dire
oui,
que
okay.
Normalement, pour demander la citoyenneté canadienne, il faut être résident permanent. Donc voilà, donc c'est ça. Donc ça avait été prolongé. Donc ça, c'est un exemple. Puis il y a aussi la question, en fait, enfin, ce qui avait beaucoup fait débat à l'époque, c'était sur tout ce qui avait ce qui touchait la double nationalité, en fait, qui était le fait de retirer la citoyenneté canadienne à des citoyens qui avaient une double nationalité, ce qu'on appelait un peu les citoyens de deuxième classe, qui sont en fait dans le cas où il y aurait, bon, c'était pour des questions de sécurité nationale, la question du terrorisme, de lutte contre le terrorisme, il y avait en fait, on pouvait révoquer la citoyenneté de ces binationaux. Donc ça a été
s'ils étaient condamnés aux criminels ou si on leur connaissait des associations avec des organisations ou des
Oui, c'était vraiment sur la lutte antiterroriste.
D'accord.
C'était dans le contexte de lutte contre. Voilà, c'était circonscrit à ça. Et en fait, le gouvernement libéral s'était opposé à l'époque à cette modification.
Mm-hmm.
Et en fait, c'était la raison principale pour laquelle le gouvernement libéral a décidé de changer la loi.
Mm-hmm.
Et en même temps, est revenu aussi sur des questions d'accès à la citoyenneté.
Donc on revient au statu quo ante, à ce qui
plus
était
ou moins, ouais,
avant
ouais, ouais.
Les décisions de Harper.
Voilà.
Est-ce que tu dirais que obtenir sa citoyenneté, c'est le parcours du combattant actuellement? Est-ce que c'est au Canada difficile de suivre le parcours vers la naturalisation, comme on l'appelle?
Mais en fait, ce que je dirais, c'est que c'est quand même compliqué. C'est pas nécessairement en soi l'accès à la citoyenneté qui est finalement la dernière étape, mais c'est parce qu'on doit passer par différentes étapes avant d'accéder à la citoyenneté. Donc, évidemment, c'est très subjectif. Hein. Chaque personne a son propre profil, ce qui crée aussi la difficulté un peu,
oui,
parce que chacun vient d'horizons différents et puis chacun a ses propres... il y a des personnes qui sont réfugiées, il y a des personnes qui viennent pour étudier ici, pour travailler. Donc, il y a vraiment des profils très différents et on doit passer d'abord par l'étape de résidence permanente qui est aussi une autre étape. Bon, c'est pas nécessairement la question aujourd'hui, mais ça fait partie d'une des étapes importantes pour acquérir la citoyenneté canadienne.
D'accord. Alors, on connaît tous dans la communauté francophone de Victoria des non-canadiens francophones qui suivent étape par étape ce parcours vers la citoyenneté. Donc aujourd'hui, que devrait-il savoir à propos de ce qui a été voté en chambre le mois dernier? Qu'est-ce qui est vraiment important?
Alors en fait, il y a plusieurs choses. Donc déjà, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette loi, elle a différents objectifs. Donc comme je disais, tout ce qui est de simplifier le processus de citoyenneté, accroître l'intégrité du programme, et puis qui avait été durci par le gouvernement conservateur, et la question aussi que je disais tout à l'heure sur la, polémique sur la double nationalité. Maintenant, ce qui est important de savoir aussi, c'est que même si ce projet de loi en fait a reçu la sanction royale, toutes les mesures ne sont pas entrées en vigueur. Donc certaines mesures sont en vigueur, notamment la question de l'abrogation de pouvoir révoquer la citoyenneté des citoyens à double nationalité. Ça a été complètement supprimé. Et l'obligation aussi de résider au Canada après avoir obtenu la citoyenneté. Donc avant, il devait y avoir une intention de continuer à résider au Canada. On devait prouver cette intention-là. Maintenant, ça aussi, ça a été supprimé. Donc ça a entraîné des difficultés par rapport à des personnes qui voulaient, par exemple, travailler à l'étranger après avoir demandé leur citoyenneté ou aller étudier à l'étranger, enfin des choses comme ça.
Alors aussitôt qu'on a prêté serment, on peut aller travailler à la Silicon Valley, par exemple.
Exactement.
Je dis quelque chose de totalement aléatoire, là, mais c'est possible de le faire maintenant. Auparavant, on devait rester sur le territoire un certain nombre d'années.
En fait, on devait prouver l'intention de vouloir résider au Canada.
D'accord.
C'était surtout le fait de résider, de prouver qu'on voulait rester ici, demeurer. C'était un peu la question, bon, si on demande la citoyenneté, bon, bah, c'est en partie parce qu'on veut rester au Canada.
D'accord. Alors, est-ce qu'on peut prendre le téléphone puis appeler nos amis en France, dire « Venez, c'est plus facile qu'avant, nos amis en Tunisie, nos amis francophones partout dans le monde, et leur dire « Venez au Canada, si vous y songiez auparavant, c'est plus facile maintenant. » Est-ce que ce serait exact de dire ça?
Alors, oui et non. C'est-à-dire que, comme je disais, en fait, il faut bien comprendre que la citoyenneté, c'est la dernière étape. Donc, il faut déjà passer par la résidence permanente. Maintenant, c'est vrai que c'est plus facile d'acquérir la citoyenneté canadienne. Donc, notamment parce que, en fait, concernant les résidents permanents, donc ça, c'est des mesures, par contre, qui ne sont pas entrées en vigueur encore, mais qui vont entrer en vigueur à l'automne, donc de cette année. Et parmi ça, en fait, il y a, alors par exemple, dans l'ancienne loi, je vais comparer un peu ancienne loi, nouvelle loi, pour bien comprendre. Donc comme je disais, en fait, il y avait une prolongation qui avait été faite, passée de 3 ans à 4 ans d'obligation de résidence au Canada pour pouvoir demander la citoyenneté. Ça, c'est repassé à 3 ans.
Bon.
Donc ça, c'est une grande modification puisque ça raccourcit les délais de demande. Et en plus de ça, c'est que le gouvernement Harper aussi avait supprimé le fait de pouvoir comptabiliser le temps avant d'être résident permanent. Donc, par exemple, si on était étudiant, on avait un visa de résident temporaire en tant qu'étudiant ou en tant que travailleur, on pouvait pas comptabiliser ces années.
Oui, c'est des années qui comptent, là. C'est du temps passé, c'est du temps très réel. Est-ce que les gens peuvent invoquer la nouvelle loi rétroactivement, s'ils étaient sous le régime Harper, est-ce qu'ils peuvent revenir en arrière et faire valoir les années d'étudiants, par exemple?
Alors,
s'ils sont passés sous le régime Harper.
Ça, c'est une bonne question. J'ai pas la réponse exactement. Ce que je sais, c'est que ça va entrer en vigueur, et pour l'instant, par exemple, sur le site, d'Immigration Canada, il y a encore, ce n'est pas encore en vigueur, donc toute l'information n'a pas été mise à jour. Puis j'imagine qu'il va y avoir des choses qui vont être, quand c'est ça, des questions qui vont qui sont pas encore abordées, puis on n'a pas encore donné l'information parce que c'est vrai que c'est pas encore en vigueur.
Donc, on réduit le temps, mais est-ce qu'on réduit aussi les dépenses? Évidemment, c'est des frais. Hein?
Ça, c'est une bonne question.
Une année de moins, c'est des frais en moins, j'imagine, ne serait-ce que par le coût de la vie. Qu'on passe au Canada, le temps qu'on passe au Canada, c'est une année qui représente des dépenses aussi. C'est du temps, donc de l'argent.
Oui. Alors après, je sais.
Mais des frais réels en moins, ça.
Pour la demande de citoyenneté, en fait, pour la demande de citoyenneté, les frais sont quand même assez élevés, puis ils n'ont pas été modifiés. En fait,
quand on dit ils sont élevés relativement aux autres pays occidentaux qui accueillent des immigrants. Ou est-ce qu'ils sont élevés
Je disais pas comparativement, je connais D'accord. pas exactement les tarifs pour les autres pays.
D'accord.
Ce que je sais, c'est que ici, c'est 630 $ pour une demande de citoyenneté, donc pour un adulte, et 100 $ pour un mineur.
D'accord.
Donc 630 $, ça veut dire aussi 12 mois de délai. Actuellement, ils sont à 12 mois de délai, donc c'est quand même un an d'attente pour avoir la citoyenneté
canadienne. Pour le traitement de la demande.
Pour le traitement de la demande, qui est quand même assez long, parce que ça, on doit attendre déjà 3 ans de résidence, puis en plus, on doit attendre un an de délai avant d'avoir la citoyenneté, donc c'est quand même long.
Et le statut de résident permanent, les étrangers le paient aussi. Il y a des frais associés au statut de résident permanent qui sont pas facilement... qui sont pas légers là,
ouais.
C'est quand même des montants.
Exactement, ça aussi c'est très élevé, puis ça sans rentrer dans les détails, ça dépend vraiment aussi de chacun, enfin de chaque il y a différents types de demandes, donc il y a différents frais possibles, mais c'est vrai que ça monte à autour de 2 000 $, enfin c'est dans ces environs là pour faire une demande de résidence permanente, qui est quand même assez des frais assez élevés quand on est étudiant, quand on commence notre vie, on n'a pas forcément 2 000 $ en poche, donc c'est quand même assez substantiel. Ouais.
Donc le gouvernement Trudeau a fait marche arrière, a annulé les mesures qu'avait prises le gouvernement Harper. Donc dans l'ensemble, c'est positif.
Ouais.
Mais on va voir à l'automne comment ça se goupille exactement. Il y a encore des points d'interrogation?
Alors en fait, c'est sûr qu'il y a des modifications qui vont être faites aussi sur le plan réglementaire, qui vont par rapport à l'application de cette loi. Donc on en saura plus à l'automne. Maintenant, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il y a j'ai pas abordé toutes les modifications qui avaient été faites. J'ai parlé du délai de 3 ans. Je voulais rajouter aussi que par rapport au délai de 3 ans, en fait, sur le fait de pouvoir comptabiliser le temps passé avant au Canada, ça c'est important de le dire, c'est qu'il y a quand même une limitation, c'est-à-dire que on peut le compter pour un maximum de 1 an. Donc ça c'est
d'accord.
Ça restreint quand même pas mal.
Ouais. Et surtout si on fait des études de maîtrise ou des études supérieures qui prennent plus de 3 ou 4 ans.
C'est ça. Si on a fait un bac et une maîtrise, on a pris 5 ans, ben on pourra compter simplement 1 an parmi ce temps-là. Puis en plus de ça, une journée vaut une demi-journée. Donc ça veut dire que pour la moitié du temps. Donc ça encore, c'est aussi une limite qui vient quand même limiter le fait que on puisse comptabiliser les années avant d'avoir la résidence permanente.
C'est déjà ça de gagné,
ouais.
Parfait. Autrement, on surveille quoi cet automne? Est-ce qu'il y a d'autres points de... On dit que le diable est dans les détails. Est-ce qu'il faudra surveiller autre chose?
Alors après, par rapport aux autres choses, simplement, je voulais ajouter... d'autres modifications qui sont quand même importantes, c'est la modification par rapport à l'exigence linguistique, parce que là aussi le gouvernement Harper avait rallongé en fait la tranche d'âge pour l'exigence linguistique, c'est-à-dire qu'on demande un certain niveau d'anglais ou de français. Et c'était passé en fait de 14 ans à 64 ans, c'est-à-dire que les personnes entre 14 et 64 ans devaient répondre à cette exigence. Maintenant, c'est réduit aux personnes de 18 ans à 54 ans. Donc, c'est-à-dire les mineurs sont plus concernés.
D'accord.
Et aussi les personnes plus âgées.
D'accord.
Voilà.
Ok, donc les travailleurs actifs quoi sont concernés. Grosso modo, c'est vraiment la population active.
Ouais, c'est ça. Il y a aussi tout ce qui s'agit il y avait une autre restriction, c'était l'obligation de rester 183 jours sur le territoire en fait pour pouvoir comptabiliser cette année comme ayant vécu au Canada, résidé au Canada, et il y avait une obligation donc de rester de plus d'un an sur le territoire, et ça encore c'est plus demandé, donc ça aussi c'est une autre restriction
durant la période, hein, les 183 jours c'est durant la période de résidence permanente menant à la citoyenneté.
Exactement, donc pendant la
chaque année.
Ouais, pendant la période qu'on est supposé être au Canada, donc dans les 3 ans, dans les 4 ans avant, on était supposé être sur le territoire 183 jours pour pouvoir se dire bon ben comptabiliser ouais. ça, l'année.
Ça peut être handicapant. J'ai connu des ressortissants étrangers effectivement qui devaient voyager beaucoup pour leur travail et qui en étaient à calculer un peu le je dois pas dépasser parce que ça pourrait me causer des problèmes et qui ont dû renoncer à certaines choses.
Ouais.
Donc là vraiment il y a une liberté de mouvement qui est consentie.
Voilà, c'est ça. C'est quand même ouais, c'est quand même une restriction importante, puis je pense que c'est vrai que ça il y avait toute une méthode de calcul, c'était compliqué parce que c'est vrai qu'on note pas nécessairement nos entrées, nos sorties, puis
ça s'additionne,
enfin c'est donc tout ça. Bon après il y a je sais qu'il y avait des dispenses qui existaient quand même.
D'accord.
Mais bon encore il faut les prouver, puis bon c'est ça. Ouais. Donc tout ça ça devenait un peu compliqué.
Et toute cette information Jeanne tu l'obtiens sur des sites spécialisés ou si quelqu'un nous entend actuellement au volant de sa voiture ou au travail n'a pas forcément de quoi noter, est-ce qu'on peut indiquer qu'est-ce qu'on peut entrer dans le moteur de recherche pour aller voir les dernières nouvelles?
Ben en fait, je pense que la meilleure chose c'est d'aller sur le site Immigration Canada. Parce que ça, c'est ils l'ont quand même expliqué. Puis c'est, je pense que c'est
il y a une lettre d'information, j'imagine, sur le site avec les dernières nouvelles.
Exactement, il y a une page officielle, puis ils expliquent. Alors comme je disais, ça n'a pas été totalement mis à jour puisque en fait, ça c'est pas encore entré en vigueur.
Voilà.
Mais il y a une page d'information qui explique bien toutes les modifications, puis qu'est-ce qui est certain pour l'instant. Donc ça c'est les choses c'est vraiment important en fait d'aller voir plus en détail si on veut plus d'informations, de se référer directement au site.
D'accord, avis à tous les intéressés et ressortissants étrangers bien sûr qui cheminent vers la citoyenneté. Jeanne, je rappelle à nos auditeurs que tu es avocate et juriste spécialiste des questions d'immigration pour ceux qui viennent de se joindre à nous. Y avait-il d'autres points à aborder aujourd'hui en terminant?
Oui, alors en fait, je voulais parler aussi, en fait, simplement très rapidement peut-être, avant de terminer la partie sur la citoyenneté, des avantages de faire une demande de citoyenneté canadienne. Pourquoi est-ce qu'on fait sa demande de citoyenneté canadienne, puis quels sont les avantages, parce que c'est vrai que des fois c'est un peu flou, puis on comprend pas bien
parce qu'il y a des gens qui se trouvent bien en tant que résident permanent pour l'éternité,
pour la fin de séjour,
à perpétuité. D'accord,
c'est ça. Donc
alors il y a des avantages, finalement il faut bien qu'il y ait une petite carotte là pour qu'on chemine vers la citoyenneté. Quels sont-ils?
Ouais, c'est ça. En fait, bon, c'est sûr qu'il y a le passeport, le droit de vote, le droit à participer à la vie politique, qui est quand même quelque chose qui donne qui sont des choses primordiales, importantes. Maintenant, outre ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que en fait, la citoyenneté canadienne, on ne peut pas la retirer, donc surtout avec la nouvelle loi.
Oui.
C'est-à-dire que en quelque sorte, c'est un droit acquis. Il y a une seule exception, c'est dans le cas de fraude, donc c'est-à-dire dans le cas de fraude lors de la demande de citoyenneté.
Voilà.
Mais sinon, il n'y a pas de raison qu'on nous retire. Donc c'est vraiment un statut qu'on a acquis. Contrairement à la résidence permanente, qui est un statut qu'on peut perdre pour différentes raisons, mais notamment dans le cas de certains, si on est coupable, donc jugé coupable de certains crimes, donc des crimes quand même graves.
C'est révocable.
Voilà. Donc si on a certaines peines, ça peut entraîner l'expulsion, donc même de la personne et la perte de la résidence permanente. Donc ça c'est quand même à ne pas négliger. Je pense qu'il y a des personnes qui ça arrive, qui ont vécu des années en tant que résident permanent, ont fait leur vie ici, il arrive quelque chose et ils se retrouvent devoir faire leur valise et puis à rentrer.
Et oui, d'accord. Donc c'est bon de le rappeler, de le souligner. On va peut-être terminer là-dessus. Je crois qu'on a fait quand même un bon bout de chemin.
Oui.
Génial. Alors, chers auditeurs, c'était Jeanne Robert, avocate et juriste, spécialiste des questions d'immigration. Je signale aussi que Jeanne est depuis quelques temps membre du CA de CILS. Merci beaucoup, Jeanne, d'être passée à la station.
Merci à toi, Alexis.
À bientôt.
Au revoir.
Encore Encore merci à Jeanne Robert, avocate et juriste, pour cette intervention sur les conditions qu'impose le Canada aux résidents permanents qui cheminent vers la nationalité canadienne. On va retrouver Jeanne prochainement pour d'autres sujets touchant aux droits et à l'immigration. Et c'est déjà tout pour cette édition du Débrief. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, même fréquence. À très bientôt.
Vous écoutez CILS FM 107,9 à Victoria.
Ici Kevin Simonard, votre animateur de l'émission Ce soir en jazz. Je vous accompagnerai cet été tous les vendredis soirs à 22h sur les ondes de CILS FM. Un rendez-vous consacré au jazz canadien.
Brigitte Burroughs du Parlement franco-canadien du Nord et de l'Ouest. Vous écoutez CILS FM 107,9 à Victoria. À Victoria.
Change mon mot de tête pour un mot doux. Mon mois de mars pour un mois d'août. Cherchez tout partout. Des bouts de roue, ouh, ouh. Changez mon bicyc pour un skate, mon monocycle pour un mot de tête. Cherchez tout partout des bouts de toi. Veux-tu monter sur station de ski, ce qu'il faut pas attendre, on se pronos les pignes ensemble et rien ne changera, promis. Veux-tu monter sur le toit de la Toyota Camry? Rie pas, c'est pas drôle. On s'aimera sur le toit de tôle, rien ne changera, promis. Change mon mot de passe, mon passe-partout, partout où je passe, tu passes en dessous. Chercher tout partout. Pour une pièce ronde, trois petits coups pour un blanc. Cherchez tout partout des bouts de toi. Change de côté, tu lis des fois. Veux-tu monter sur toi? Toyota Camry, rie pas, c'est pas drôle. On s'aimera sur le toit de tôle, rien ne changera, promis.
vois cette affiche tous les matins, aussi le soir quand elle revient. Le seul désir constant, elle a rêvé toute sa vie d'un voyage en Italie, découvrir un instant. Elle a voulu être bohème, courir sur les plaines pour s'échapper du temps. Tous les jours elle se dit que la vie changera. Elle ne voit que des montagnes qui lui cachent sa villa dans la Toscane. C'était même une route monotone, le va-et-vient, les mêmes personnes, routine habituelle. Quand elle regarde par la fenêtre, elle voudrait bien disparaître, s'envoler comme l'hirondelle, pour enfin se reposer sous les branches d'un olivier. Le téléphone appelle. Tous les jours elle se dit que ma vie changera.